Bonjour à tous. Le Seigneur a parlé ce matin à plusieurs reprises. La dernière parole qu'il a apportée disait « Je te demande de proclamer mon nom ». Et quelque part, je sais bien qu'il y a des temps d'hésitation, des temps parfois de crainte à élever sa voix, des pas de foi, j'aime bien ce mot, puis en même temps, je le redoute, des pas de foi, faire un pas dans le vide, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile. Et certains peuvent se dire, tiens, cette parole, c'était pour moi ce matin, j'aurais dû élever ma voix, j'aurais dû proclamer, dire qui est Jésus pour moi. Et je sais que certains partiront de ce lieu avec un sentiment d'inachevé, un sentiment d'être passé à côté. Et je vous assure que ce n'est pas le cas. Je vous assure que même si vous n'avez pas osé faire ce pas, élevez vos voix pour plein de raisons, la crainte de s'afficher, de se dire, de s'exposer, il sera toujours possible de le faire dans les temps qui viennent. Alors peut-être dans la simplicité de votre foyer, dans votre chambre, dans un temps où vous serez seul face à Dieu et que vous choisirez de lui dire « Tu es vraiment mon Dieu, tu es vraiment mon Seigneur, mon Sauveur ». Et je vous invite à le faire dans les heures qui viennent. Si vous avez ce sentiment qui vous habite, ne vous dites pas que je vous ai passé à côté de cela. Un jour, il y a eu un pasteur dans une assemblée de pasteurs où j'étais et qui on me posait la question sur le fait de ne pas vouloir ou pas être favorable d'aller à Toronto, en l'occurrence, pour aller voir le réveil qui se passait là-bas, alors que tous les autres pasteurs disaient « on y va, c'est formidable », etc. Et puis moi, quand on m'a demandé, j'ai dit non. Et puis un pasteur m'a regardé et puis a dit « mais en fait, Jean-Marc, est-ce que tu n'as pas le sentiment que tu vas rater le train de la grâce de Dieu qui nous ouvre les portes pour aller à Toronto et voir les choses qui s'y passent ?» J'ai dit « ben, dans ta question, il y a déjà ma réponse, c'est le train de la grâce ». Et si je suis passé à côté, je sais que le train repassera. Heureusement, le train de la grâce n'est pas géré par la SNCF. Je dis ça parce que cette semaine, je dois aller à Paris et que j'ai tout calé sur 3 jours de plein d'activités que je dois faire. On en reparlera tout à l'heure. Et je ne sais pas comment je vais partir. J'ai à peu près l'idée comment je vais revenir. Mais le train de la grâce de Dieu est toujours présent. Alors je vous en prie, je vous y invite, si vous avez le sentiment que vous auriez dû ce matin élever vos voix, faites-le même au milieu d'un chant tout seul. Même si l'Église n'est pas là, Dieu entendra. Les puissances spirituelles entendront. Que ce soit celle de Dieu, que ce soit celle de l'adversaire. Ne vous privez pas de cette proclamation de ce que Christ est pour vous. Amen. J'aimerais partager avec vous quelques pensées. Alors, on va peut-être lire les 3 textes que j'ai. Alors, 3 textes. Alors, déjà, on commence fort. 3 textes d'un seul coup. Ça va être lourd. Non ? Ça va aller ? Alors, premier texte, ce sont 3 textes qui ont un lien commun, à vous de le trouver, je pense que ce sera assez rapide. Le premier, c'est dans le livre de la Genèse, du chapitre 12, les versets 1, allez, je veux dire 3, et peut-être même 4, c'est l'appel d'Abraham. Vous connaissez tous ce récit-là, je n'en doute pas. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Un petit jeune qui commence son ministère. Ça laisse de l'espoir à certains qui disent « Oh, je suis âgé, je suis trop vieux, trop vieille. » 75 ans, il commence sa route. Hein. Deuxième texte, toujours sur la même, 2 versets. C'est les deux premiers versets du livre de Jonas. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. » Et enfin, un troisième texte, un petit peu plus long, mais qui contient la même démarche. Après cela, Évangile de Jean, chapitre 5, versets 1 à 9. « Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. » Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat et viendra après toute une discussion entre les religieux juifs qui étaient outrés qu'un miracle puisse se faire, non seulement un jour de sabbat, mais en plus au moment d'une fête importante. Voilà trois textes que j'avais envie de partager avec vous. Le premier, c'est l'appel d'Abraham, et cet ordre « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père ». Et c'est un appel qui commence par une séparation. Et j'aimerais ce matin parler avec vous de l'appel que Dieu vous adresse et m'adresse à moi. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas appelés par Dieu? Auquel cas, on peut vous servir un café dans la... Et puis, on se retrouve après. En fait, nous sommes tous appelés par Dieu. Dieu nous appelle tous et ici, nous avons... un appel, celui d'Abraham, qui concerne sa vie, comme nous sommes appelés par Dieu à laisser les choses anciennes derrière. Ça vous parle ? C'est un principe qui n'est pas seulement spirituel, il est aussi en lien avec tout le processus de vie et de croissance pour tout individu. Passer à une étape différente, être appelé à se séparer, à lâcher prise et vivre autre chose. J'ai eu le plaisir, la joie d'avoir un couple qui m'a demandé cette semaine de les préparer au mariage. Ma femme m'a dit, dis donc, tu es un spécialiste des préparations au mariage. Je ne sais pas, j'en ai trois en cours là en ce moment. Et quand je me suis séparé au bout de 2h30 de ce couple qui est venu hier, je dis, mais vous savez, je suis tellement plus heureux de faire des mariages que des obsèques. Donc ils m'ont regardé et me dit, ah oui, ça doit être plus agréable. Mais le mariage, c'est une affaire d'alliance. Un appel et la réponse à un appel, c'est une question éminemment d'alliance avec Dieu. Au commencement, j'ai envie de dire, était la fusion. Dans un couple, l'aspect fusionnel existe au temps des fiançailles. Vous voyez, le commencement, il y a la fusion. Et même dans la naissance d'un enfant, une maman, si je regarde les mamans qui ont des bébés dans leurs bras, il y en a ici, eh bien, il y a un aspect fusionnel qui est flagrant entre la maman et l'enfant. Et c'est quelque chose de tout à fait normal, puisque cette fusion entre la maman et l'enfant est une question de survie, de vécu, et certainement que la naissance, c'est la première séparation au moment où le cordon ombilical a été coupé, tout à coup, tiens, on se sépare. C'est la première séparation. L'histoire d'Abraham montre que cette séparation, elle peut perdurer un peu comme dans la vie de la maman et de l'enfant, avec l'allaitement, les soins maternels, etc. Mais il y a un moment où tu quitteras ton père et ta mère. J'aime beaucoup ce texte-là de la Genèse qui parle dans la préparation au mariage de cette étape où se choisir, constituer un couple, c'est se séparer de son père et de sa mère. je connais certaines histoires de vie ici, et de certains qui étaient dans la ferme de papa et de maman, à travailler avec eux, à être un petit peu, pas phagocytés, mais en tout cas englobés. Et puis tout à coup, il y a un jeune homme qui est arrivé, et puis on a quitté papa et maman il y a bien des années. On a tous connu ce type d'histoire-là. L'histoire d'Abraham, ça ne facilite pas la séparation. Ça ne facilite pas le fait de partir et de se séparer. L'appel commence par une séparation. Terah, le père d'Abraham, a eu 3 fils, Abraham, Nahor et Haran. Haran meurt au pays de son père, à Ur en Chaldée, en laissant 2 enfants. Lot et Milka. Lot sera quasiment adopté par son oncle Abraham, et Milka deviendra l'épouse de Nahor, son oncle. Vous avez tous suivi ? Ouais. Ça, c'est la famille. Va-t-on quitter ta famille, ton père, ta mère et tout le tintouin ? C'est pas simple pour Abraham. Comment se séparer ? Comment prendre son autonomie et se détacher ? Or, être appelé, c'est faire cette démarche. Dieu appelle Abraham et il lui précise bien « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père ». Ce que je voudrais ce matin souligner, c'est que dans l'appel d'Abraham, comme dans celui de Jonas, et dans l'appel du malade paralytique à la piscine de Bethesda, il y a un terme hébraïque qu'on ne retrouve pas dans le Nouveau Testament, puisqu'il est en grec, mais on ne peut pas imaginer que ce soit dit en araméen par Jésus et que ce soit exactement le même texte. C'est « Lève-toi ». En fait, en hébreu, pour Abraham, comme pour Jonas, c'est « Va vers toi » ou « Va pour toi ». L'appel qui est adressé à Abraham, c'est d'aller vers lui. Moi, longtemps, j'ai cru qu'Abraham, il devait partir dur, d'aller faire tout un chemin pour arriver dans la terre promise, etc. C'est un changement géographique d'un point A à un point B. Pas du tout. L'appel d'Abraham est dans l'Ancien Testament. À chaque fois que vous voyez ce terme « lève-toi », en fait, ça veut dire en hébreu « lech locha »,« va pour toi » ou « va vers toi ». Attends, alors Seigneur, moi je pensais faire un grand voyage. Ça me fait penser à Michel, quand il est rentré du collège biblique, il dit « Seigneur, le monde entier est devant moi, envoie-moi où tu veux !» Et le Seigneur lui a dit « Bah, retourne d'où tu viens, à l'Orient !» Mais en fait, il a eu l'appel de Jonas, parce qu'en fait, Jonas, quand il a été appelé, Dieu l'a envoyé à l'Orient, à l'Est, à l'Orient. Et en fait, il a dit « Moi, non, je pars de l'autre côté ». Mais là, Michel a fait un acte d'obéissance, il a dit « Oui, d'accord, je retourne à l'Orient ». Là, pour le coup, Abraham, il avait un voyage à faire. Mais le voyage n'est pas un temps, un voyage géographique, qu'un voyage intérieur et qui prend sa racine, sa source, son départ en moi. « Va vers toi » ou « va pour toi ». Et cette expression est vraiment significative. Dans la première, dans la lecture de la première injonction divine, on découvre que Abraham est invité à imiter le voyage qu'il y a à faire pour tout être humain, un chemin qui commence en soi-même. Mon appel ne commence pas par un pas de foi. Oula. On entend en même temps, ah, il faut faire des pas de foi, c'est ce que Michel a dit tout à l'heure. Oui, il faut faire un pas de foi, mais l'appel commence en allant vers soi. Ça implique que nous devons nous rencontrer, faire un chemin personnel à l'intérieur de nous-mêmes et découvrir ce que Dieu dépose en nous comme itinéraire, comme projection, comme projet de vie. Et ce terme, lech locha, c'est « va pour toi, va vers toi ». C'est-à-dire qu'il y a en chacun d'entre nous des éléments que Dieu a déposés, qui font partie de notre personnalité, qui font partie des dons naturels que Dieu a déposés, et que ce que je suis va s'intégrer à un plan que lui a déjà établi. Et le plan qu'il a pensé pour Abraham, et Abraham, c'est bien, je dirais, quelqu'un qui devait se séparer, puisque son père l'a appelé Abraham, c'est-à-dire père élevé. C'est-à-dire, il veut en faire un père comme lui, mais un type de père parfait, quoi. Et Dieu lui donnera une autre identité afin qu'il soit le père de tous les croyants. Est-ce que je veux être ce que mon père et ma mère veulent que je sois? Ou bien est-ce que je veux aller vers moi-même? Qu'est-ce qu'il y a en moi et que Dieu, même si je l'ignore, a déjà déposé? Est-ce que je suis appelé à ouvrir un orphelinat à Madagascar? Parce qu'il y a ça en moi? Est-ce que je suis appelé à faire découvrir mon pays d'origine en Asie? Est-ce que je suis appelé à rester à l'Orient? Est-ce que je suis appelé à découvrir en moi ce que Dieu a déposé comme élément et qui font que je suis, dans ses plans, une pièce unique? Je suis allé à la médiathèque de Kevin hier parce que j'avais quelques jours de retard dans la restitution de mes livres. Enfin, j'avais quelques semaines de retard. Bon, en fait, j'avais un mois de retard. Bon, je suis allé et dans la médiathèque de Kevin, il y a quelque chose que j'aime bien. Il y a une table dans un grand couloir et sur cette table, il y a un puzzle. Et il est en cours. Et il y a un écriteau, à vous de rajouter votre pièce. J'aime beaucoup cette idée-là. C'est-à-dire qu'on passe, et puis moi ça m'est arrivé, je m'arrête à côté de la table, là j'ai pas pu le faire hier, il y avait une dame qui occupait tout l'espace. Mais bon, je voulais bien la bousculer un peu, mais je me suis dit que ce serait pas raisonnable. Donc j'ai attendu, puis elle y est restée accrochée. Mais je me suis arrêté une fois, à plusieurs reprises, et puis j'ai cherché à rajouter ma pièce. Ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai rajouté ma pièce. Mais est-ce que c'est pas cela l'appel de Dieu? Faire que la pièce unique que je suis trouve sa place dans la pensée, dans le plan de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu pour toi? Quelle est la place unique, parce que tu as été créé avec des dons, des capacités, un profil qui est unique pour le monde dans lequel Dieu t'inscrit? Va vers toi. Va pour toi. J'aime les deux traductions possibles en hébreu. Va vers toi, c'est-à-dire que la première invitation pour répondre à l'appel de Dieu, c'est de rentrer en soi, parce que le point de départ, il est là. Il est là, il n'est pas dans le pas que je fais, c'est déjà la deuxième étape. Je me rappelle que le dernier trail que j'ai fait, je m'en vante parce que j'en ai pas fait beaucoup dans ma vie, mais le dernier trail, je m'étais inscrit à un trail de nuit à Gestel. Et je m'étais dit, comme je ne suis pas un très très bon, quand je suis arrivé, j'ai vu une foule énorme qui était là devant moi. Je me suis dit, je vais me mettre à la fin de la colonne, comme ça je suivrai tout le monde. Et puis, je me suis dit, je ne vais pas être ridicule. Et à un moment donné, il y avait toute la famille Cannon qui était là, parce qu'Émilie faisait aussi le trail, on s'était inscrits tous les deux. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, je suis à la fin, le départ devrait, on était peut-être 250, 300, 400. Et à un moment donné, j'étais à un bout, et tout à coup, au bout où j'étais, il y a toute une lignée de feux de Bengale, etc., qui s'est mis. Hein. Et en fait, j'ai réalisé à ce moment-là que je n'étais pas au bout du bout, j'étais au début du bout. Et donc, pendant trois quarts d'heure, ils m'ont tous dépassé. Donc, quel est le chemin? Où est-ce qu'il commence, ce chemin? Moi, je m'étais mis au mauvais moment, au mauvais endroit. Mais l'appel de Dieu commence à l'intérieur de moi. Tu connaîtras l'appel de Dieu en allant vers toi. Ah, ouais. Mais ça, ma femme, elle est plus douée pour aller vers elle que moi, je ne le suis. Moi, il faut que je sois plutôt dans le pas à faire, dans ce qui est à faire. Dès qu'il faut faire quelque chose, et j'en connais d'autres qui sont comme ça, faire des choses, elles sont, mais aller vers elle-même ou vers lui-même, ça, c'est pas facile, hein. Et les hommes sont souvent comme ça. Quand Dieu invite Abraham, il dit « va vers toi ». Tu ne pourrais pas plus juste me dire qu'est-ce que je dois prendre, mettre dans les valises, dans le sac, sur les chameaux, etc. Parce que ça, je sais faire. mais allez vers moi. Et pourtant, lecha, lève-toi, va vers toi, c'est chercher ce qu'il y a en nous de ce que Dieu a déjà déposé sans que nous le sachions. L'apôtre Paul était convaincu que son chemin, c'était de garder pur le message de la loi pour Israël, quitte à mettre en prison des hommes, des femmes, des enfants qui étaient croyants de cette nouvelle voie qu'on appelle Jésus-Christ, qui aurait été le Messie. Il a été capable, à un moment donné, par la force des circonstances, mais aussi avec son assentiment, de rentrer en lui-même et de dire « Oui, là, mon chemin commence là. » Aller pour soi, c'est aussi peut-être, comme Abraham, se dire, quand j'entends Dieu me dire « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » En fait, c'est là le bout du chemin parce que entrer en soi, c'est aussi se mettre en route parce que j'ai une motivation à changer mon chemin. Je suis un très... très adepte de ce qu'on appelle l'approche motivationnelle, c'est-à-dire qu'on ne change en soi que ce pourquoi on est motivé à changer et ce en quoi on a de l'intérêt. J'ai reçu un jeune couple hier, je peux vous assurer, ils sont tous les deux attachés de manière différente à leurs parents, mais alors, ils sont prêts à les quitter. Hein, parce qu'ils ont une motivation intérieure. Ah oui, et je les regardais sur mon canapé, c'était visible qu'ils s'aimaient. Ils sont prêts à quitter leur père, leur mère, et ça, même s'il y a un attachement, il y a même une fusion dans un certain cas, mais on ne choisit de changer que dès lors qu'on est convaincu que ce qu'on va choisir est meilleur que ce que l'on a aujourd'hui. Je te rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Dès lors que j'entends ça, alors je dis, ah Seigneur, oui, c'est plutôt intéressant. J'ai plutôt intérêt à changer. Est-ce que tu prends conscience que Dieu t'appelle à te lever vers toi-même et à trouver en toi les paroles d'espérance, les promesses qui sont là pour toi ? Et qui a tout intérêt à aller creuser là, en soi, pour savoir où commence le chemin de Dieu. Et Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté à justice, et il a été appelé ami de Dieu, dit l'apôtre Jacques au chapitre 2, verset 23. Il est le modèle du croyant parce qu'il a fait ce chemin vers lui, même si ce n'était pas facile. Il a dû quitter. Alors on dit oui, il a quitté Ur en Chaldée, etc. Non. Il a eu cet appel-là. Mais c'est son père, Théra, qui a quitté Ur, qui l'a amené à Haran. Alors c'est un texte un peu étrange, parce que Théra emmène toute sa famille, dont les deux fils survivants, les neveux, les nièces, etc. Et ils vont à Haran. Haran, ce n'est pas la même écriture, mais c'est le même mot que le nom du fils qui est mort. Haran est mort, ils vont à Haran. C'est lourd comme histoire familiale. Comment est-ce qu'on peut s'inscrire dans une histoire familiale en suivant son père, en suivant ses traditions, en suivant ce qu'on a reçu, etc. Et c'est seulement arrivé à Haran que l'appel d'Abraham est devenu réel parce qu'il est rentré en lui-même et qu'il est rentré dans ce qui lui appartenait à lui, à ce que Dieu déposait en lui, et non pas dans ce que son père voulait. Dans la tradition juive, on dit que le père d'Abraham était fabricant d'idoles. C'est juste une tradition orale, et que c'est à ce moment-là, à Haran, que Abraham aurait brisé toutes les idoles du magasin de son père et qu'il serait parti en emmenant et sa femme et son neveu Lot avec lui. C'est la petite histoire. Mais se pose la question, est-ce que tu as à quitter ton père et ta mère? Est-ce que tu as toi aussi à rentrer en toi-même pour trouver le commencement de ton chemin? L'air Laura, va vers toi. Va pour toi. Ouais, mais il y a mon père, il y a ma mère, il y a ma famille. Je suis l'aîné de 8 enfants. Ma mère a eu le don d'installer en moi le sens du devoir. Ça m'a servi, en certains cas, alors le sens du devoir, ça m'a aussi bien enfermé dans des comportements, des attitudes, y compris dans l'Église, me sentir prisonnier du devoir. Ah, je le fais parce que je le veux, je le désire, je suis motivé. Oui, mais en même temps, il y a ce fichu sens du devoir qui me pousse derrière et dire, bah non, tu ne peux pas t'échapper, tu ne peux pas aller à droite, à gauche. Non. Il a fallu que je me libère de cela. Et je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait encore terminé. Qu'est-ce qu'il y a en toi qui t'empêche de trouver le début du chemin et de l'appel que Dieu a déposé en toi? Lève-toi pour toi! Pas pour tes parents, pas pour l'Église, pas pour ta mère. J'ai connu la maman de Michel, donc... pas pour ton père, ta famille, pour de ceux qui sont autour de toi. Lève-toi pour toi et va vers toi. Accepte ce chemin. Vous savez, dans le Luc au chapitre 15 et verset 17, vous avez ce récit que tout le monde connaît, c'est le récit du fils prodigue. Vous connaissez ce récit, deux frères, l'un dit, oh, papa, donne-moi mon héritage afin que je puisse aller vivre ma vie. Il sépare son héritage aux deux fils, hein, pas simplement à celui qui s'en va. Et puis, le fils s'en va, il a la belle vie, il fait la fête, il va en boîte de nuit, etc. Il s'achète une Jaguar, et puis à un moment donné, il n'y a plus rien. Et famine dans le pays, il se retrouve à devoir garder des cochons, des porcs, qui se nourrissent de caroubes. Il est dit que même lui, en regardant les porcs manger, se disait, mais moi, je n'ai même pas ça. En vous, pensez à ça. La motivation vient de l'inconfort dans lequel on se trouve et de l'intérêt qu'il y aurait à changer. Alors, il se dit, les ouvriers de mon père, ils ont plus de pain en abondance que moi, et ici je meurs de faim. Et alors il fait quelque chose, il dit, je me lèverai. Lève-toi, quitte ton père et ta mère, et ta... je me lèverai. En fait, le chemin du fils prodigue, il commence à ce moment-là. Pas au moment où il est dit, dans le texte, il se leva et alla vers son père. Non, non, le chemin... c'est qu'il est rentré en lui-même. C'est d'ailleurs quelque chose qui est dit dans l'Exode. Il est rentré en lui-même et il s'est dit, voilà, c'est mieux chez mon père et je vais me lever et je vais y aller et je dirai à mon père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Ce processus de la conversion repose véritablement sur cette rencontre avec soi-même et la projection que le fils fait, je vais me lever. Je suis rentré en moi-même. Ce que Dieu souhaite pour chacun d'entre nous, c'est qu'on soit capable de rentrer en nous-mêmes de la même manière. Et de faire le point avec ce que nous sommes, là où nous en sommes, et que nous puissions dire à Dieu, mais Seigneur, voilà où j'en suis. Qu'est-ce qui est meilleur pour moi? Qu'est-ce que je n'ai pas entendu de toi? C'est un acteur que j'aime beaucoup, qui est très impertinent et qui célébrait, qui présidait la cérémonie des Césars. Donc le moment dans l'année où on donne un prix à une personne par catégorie. Et puis s'adressait à une foule de 500 à 600 acteurs les plus célèbres qui étaient en existence. Et puis s'adressait à eux en disant, mais qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné cette année pour que vous soyez là et pas de ce côté-là? Sous-entendu, qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors c'était de l'humour, mais la question se pose, est-ce qu'on peut aussi devant Dieu se dire, mais Seigneur, est-ce que je suis bien à la place où je dois être? Est-ce que l'appel que tu m'adresses, j'y réponds, là, maintenant? Est-ce que celui qui est à côté de moi et que j'aime, est-ce que je peux le soutenir dans cette démarche-là? Je peux la soutenir à trouver ce chemin pour aller vers soi. Abraham est appelé à laisser derrière lui son passé et son présent, afin de plonger dans l'inconnu qu'il est, un lendemain qui est fait de l'écoute de Dieu. Ah, écouter Dieu. Moi, j'ai tellement de choses à faire. C'est pas facile d'écouter Dieu. Et puis, j'ai pas vraiment le temps. Il faut que j'aille travailler, j'ai les courses à faire, j'ai une telle à visiter ou un tel à visiter. Non, entrer en soi pour aller vers le pays que je te montrerai. Ça commence en toi. Aller pour soi. Une démarche qui est liée à la place, à la valeur que l'on s'accorde. Et parfois, on ne va pas vers soi parce qu'on considère qu'on n'est pas essentiel, puis qu'on n'est pas précieux et qu'on n'est pas unique. Mais pourtant, c'est va vers toi, dit Dieu. C'est là que j'ai déposé tout ce qui est utile pour que tu avances, pour que tu grandisses. Alors, est-ce qu'il faut que je t'envoie à l'hôpital pour que tu sois sur un lit pendant un temps pour aller vers toi? Je vise personne. Est-ce qu'il faut que je te mette dans telle ou telle situation? Une fois, on s'est retrouvé avec Francine sur notre canapé, on n'avait plus d'église, on avait été renvoyés de partout, on était isolés. Ça nous a incités à aller vers nous. Bon, moi j'étais moins rapide que ma femme, mais il a bien fallu y aller pour savoir, mais quel est mon appel? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Va pour toi, dit Dieu. Toi, le père élevé, je vais te donner une autre identité. Pourtant, père élevé, c'est quand même quelque chose. Eh bien, Dieu lui dit, tu seras à l'origine d'un grand peuple, d'une grande nation. Je te bénirai. Tu ne seras pas simplement un bon papa. Tu vas devenir un homme duquel naîtront des nations de croyants. Je te rendrai grand. Tu seras une source de bénédiction. On n'imagine pas ce que Dieu peut faire avec l'homme et la femme que nous sommes, avec les dons qu'il a déposés en nous et avec le chemin qu'il a prévu pour nous. Jonas, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots: Lève-toi, va à Ninive. La grande ville écrit contre elle. Jonas 1, 1 et 2. Lorsque la conversion est nécessaire, Dieu est toujours présent pour intervenir. Ce texte-là, je l'ai relu il y a quelque temps et j'en ai fait le partage au groupe de prière. Et j'ai découvert des choses en travaillant sur des livres, des textes et notamment une exégèse de Francine Carillo, une femme pasteur de Genève. Et dans ce texte-là, il y a quelque chose qui est assez étonnant. Ça commence par ce mot en hébreu, vaïehi. Vaïehi, debar, Yehova, el, Yona, ben, Amittai. C'est exactement le verset qu'on vient de lire. Sauf que le livre de Genèse commence par peut-être le mot le plus solennel qu'il y ait dans la Bible. Tellement solennel que les Juifs ont décidé de ne pas le prononcer. C'est un mot que les Juifs ne disent jamais. Vayehi, c'est tout simplement et il est, et il est. Alors on dit, alors la traduction qu'on ferait, c'est et il est, parole de Dieu pour Jonas, fils d'Amittai. En quoi et il est un mot? Tout simplement parce que ce mot-là, pour les Juifs, c'est le mot avec les mêmes lettres qui constituent le nom de Dieu. Rappelez-vous l'épisode, en français on ne le voit pas, mais pour les Juifs, quand ils commencent de lire le livre de Jonas, et il est la parole de Dieu pour Jonas, et il est, c'est tout simplement ce nom que Dieu donne à Moïse quand Moïse dit: bon, tu veux m'envoyer chez Pharaon pour pouvoir libérer ton peuple, etc. C'est bien joli, mais si j'y vais là-bas, je me présente au nom de qui? Et donne-moi ton nom. Et là, Dieu lui dit: Vayehi, Vayeha, c'est-à-dire je suis celui qui est. On traduira nous par l'Éternel. Sauf que pour les Juifs, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Ils l'ont mis tellement en avant que quand le nom de Dieu est écrit dans la Bible, ils ne le disent pas. Ils disent Adonai, Seigneur, etc. Et en fait, le livre de Jonas, l'appel de Jonas commence par et il est, c'est-à-dire les consonnes du nom de Dieu. Et un exégète disait, vous voyez, ce livre de Jonas, c'est un livre où Dieu intervient dans la vie d'un homme qui s'appelle Jonas et qui est confronté à l'irruption de Dieu dans son existence. Vayehi, premier mot, c'est « il est ». Il est la parole de Dieu, pour, c'est-à-dire que Dieu parle. Alors, ce mot initial, qui partage la même racine que le nom imprononçable de Yahvé, ça donne un petit peu la pulsation de ce livre-là en disant « Dieu pénètre de manière violente pour conduire Jonas à aller dans une direction précise en termes d'appel. » De cette rencontre, de cette révélation, du premier mot de ce livre de Jonas, il y a cet ordre d'aller. C'est-à-dire que Dieu vient en nous. Et bien souvent, l'appel, c'est l'irruption de Dieu dans notre vie de manière tellement involontaire de notre part, mais volontaire de la part de Dieu. Tout à coup, Dieu nous rencontre. quelqu'un disait, j'ai rencontré Dieu dans ma vie comme un conducteur qui est en voiture a rencontré un mur. Dit, ça a été un choc. Un des plus grands pasteurs protestants pentecôtistes dans les années 50-60, il était pasteur d'une église de 1500, 1600 membres, et puis il était tellement pris qu'il n'entendait plus la voix de Dieu. Et puis Dieu avait pour lui une pensée bien, il s'appelait David Duplessis, bien précise, et notamment qu'il devienne le lien privilégié entre le monde protestant et évangélique et le catholicisme. Et Dieu essayait de lui parler, et puis impossible de capter son attention, trop occupé comme pasteur. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il s'est vraiment pris textuellement un mur avec sa voiture. Il s'est retrouvé à l'hôpital, il avait au moins une jambe cassée, une bonne en mauvais état. Et là, il était sur son lit, puis il rouspétait un peu après Dieu. « Seigneur, pourquoi ? T'as vu avec tout le travail que j'ai à faire, t'as ?» Et puis, il a entendu Dieu lui dire, c'est comme ça qu'il en témoigne dans un livre qui s'appelle « Monsieur Pentecôte », Dieu lui dire « Oui, mais maintenant, on peut parler. » Comment Dieu doit-il agir pour capter notre attention, pour faire que nous allions vers nous-mêmes et que nous cherchions en nous ce que Dieu a déposé de précieux, de vrai? Être en un instant confronté à l'irruption du divin dans notre existence, à la perspective d'entrer dans une nouvelle dimension et oser ce divin, cette perspective qui vient du ciel et fait tomber tous les murs qu'on a construits dans notre vie, toutes nos certitudes, toutes nos compréhensions des choses. En fait, David Duplessis, à partir de cette hospitalisation, Dieu a pu lui parler et à ce moment-là, il l'a dirigé de manière à ce que dans le Concile Vatican II, il soit pour les catholiques choisi afin de donner son regard sur la nécessité de transformation de l'Église catholique. Alors après, je ne sais pas s'il a remercié Dieu pour l'accident, mais il a dû être beaucoup plus attentif quand Dieu lui parlait, au prix d'une voiture. Est-ce que tu es prêt à rentrer en toi-même, à aller vers toi, à aller pour toi, pour entendre ce que Dieu veut te dire, ce qu'il veut accomplir? L'ar l'ra crie vers toi. Jonas, alors, c'est une interprétation. Vous me direz, oui, mais bon, ça c'est une interprétation toute de Jean-Marc Wangto. Ben oui, mais sauf qu'il y a dans ce premier verset de Jonas, il y a quelque chose d'intéressant. Il est le fils d'Amitai. Amitai, ça vient d'un mot hébreu qui dit vérité. C'est-à-dire qu'il est le fils de la vérité. Et nous sommes véritablement, en tant que croyants, fils voulant vivre la vérité de Dieu pour nos vies. Parfois, on en est bien à côté. On n'imagine pas ce que peut être la vérité de Dieu pour nous. Mais Dieu nous dit, mais tu es le fils d'Amitai aussi. Tu es aussi le fils de la vérité parce que en Christ, tu es quelqu'un qui est appelé à vivre ce qui est vrai. Pour toi et pour ceux qui sont autour de toi. Est-ce que tu veux vivre cette vérité de Dieu dans ta vie? Eh bien, je t'assure, va vers toi et va pour toi. Et ce qui me encourageait, Francine Carillo, cette exégète et poète, et elle fait des écrits très très chouettes, à aller dans cette pensée-là que Jonas devait aussi aller vers lui, c'est qu'en fait, Dieu l'envoie vers Gestel, Paris, Ninive. Et vous savez quoi? Il est écrit donc, parole de l'Éternel adressée à Jonas fils d'Amittai, lève-toi, va à Ninive. Et vous savez, le nom de Jonas, ce sont, alors on ne le voit pas en français, mais j'ai vérifié, hein, je peux vous assurer. Et c'est en lisant cette exégèse que je me suis attaché. Le nom de Jonas, ce sont les mêmes lettres que Ninive. Amusant, non? Ah, les mêmes consonnes, mais dans l'hébreu, il n'y a pas de voyelles, ou il n'y a pas eu de voyelles jusqu'environ au Xe siècle. Mais Jonas et Ninive, donc si on lit ça, on dit, donc, lève-toi et va vers Ninive ou Jonas, c'est-à-dire vers toi-même. Lève-toi vers toi-même et va à Ninive, et c'est les mêmes lettres que son prénom. Donc ça veut dire qu'il y a, pour lui, on peut lire ce texte-là aussi comme ce cheminement qui lui est proposé. Et va à l'est, à Ninive. Et oui, bon, ben moi je vais plutôt aller à l'ouest, à Tarsis. D'où l'expression, pour quelqu'un qui est de l'Orient, d'être complètement à l'ouest. C'est une interprétation particulière. Mais Jonas était à l'ouest, alors que Dieu l'attendait et voulait l'envoyer à Ninive. Et pour terminer ce texte de la guérison à la piscine de Bethesda, de cet homme qui est là, je relisais des commentaires un peu de l'évangile de Jean. Et qui disait qu'il y avait un phénomène dans certaines piscines où l'eau pouvait remonter à travers les dalles de la piscine et puis remonter. Bon, c'était aussi à une époque où la critique biblique visait à diminuer les faits miraculeux. Mais il disait, bon, il y avait ce phénomène-là de piscine et avec des gaz qui remontaient et qui donnaient une particularité à certaines eaux et piscines de Jérusalem. Peu importe cet aspect-là. Simplement, quand un homme paralytique est là, immobilisé, il ne peut pas aller dans l'eau parce que son handicap fait que les autres y sont en premier et prennent toute la place, eh bien, Jésus le regarde et dit, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux être guéri? Cette question-là, elle est aussi importante parce que Jésus est souvent sous ce registre-là de dire, qu'est-ce que tu veux? Il nous demande notre avis afin que nous l'exprimions. C'est-à-dire, il n'arrive pas en disant, bon, pas à peine de causer, tu sais, je sais ce que... Souvent, c'est mon médecin qui me disait, ou les médecins, vous savez, ils disent, ah, mais j'ai bien vu que vous aviez ça. Tu dis, ah bon? J'ai encore rien dit. Mais Jésus dit d'abord, est-ce que tu veux, je veux que tu sois coopérant avec moi pour être guéri. Et là, l'homme dit, ben voilà, je ne peux pas, un autre descend. Alors Jésus lui dit, lève-toi. Et cet homme qui dit, qui se plaint, qui est malade, c'est un juif. Et il a dû répondre en araméen, langue très proche de l'hébreu, de l'Ancien Testament. Et donc, il a dû, Jésus lui dire, bah, l'echlera, va vers toi, prends soin de toi, va vers toi, prends ton lit et marche. Et j'irai quelque part, il lui dit, prends ton lit, parce que maintenant, c'est une époque qui est révolue. En te levant, en rentrant dans mes promesses, même ton lit, tu t'en serviras pour autre chose que pour attendre que l'eau bouge et qu'un ange éventuellement fasse remuer l'eau. Prends ton lit. Et en fait, ce que Dieu veut, c'est aussi dans ce lechlecha, va vers toi-même, va pour toi, c'est qu'on puisse être guéri de tout ce qui en nous enferme, bride, brime. Ce que nous sommes appelés à devenir, ce que nous sommes du fruit de nos expériences, de ce que nos parents ont pu faire, de ce que les violences qu'on a subies peuvent avoir généré en nous, eh bien Dieu te dit aujourd'hui, va pour toi, va vers toi, prends ton lit et passe à autre chose. Ton histoire est ailleurs. Alléluia! Est-ce que tu as envie de vivre autre chose? D'aller vers toi. Alors, je vais m'arrêter là, mais se lève et va vers toi, et va pour toi, je vous assure que c'est un ordre qui est initial. Et quand je disais que le premier pas, c'est pas quand le fils prodigue se lève et qu'il retourne vers papa, et que votre premier pas ou mon premier pas, c'est pas non plus celui où je dis j'ai décidé que, c'est quand je rentre en moi-même. Et je laisse le Saint-Esprit me conduire vers ce qu'il y a de meilleur pour moi. Et je peux vous assurer que, au fil de 4 à 5 décennies de vie avec le Seigneur, j'ai vu des personnes être transformées. Et j'ai vu des hommes et des femmes ou des jeunes gens qui véritablement sont devenus ce qu'ils étaient aux yeux de Dieu et dans la pensée de Dieu. Est-ce que tu veux vivre cela aujourd'hui? Va vers toi-même. Va pour toi. Et même le pasteur ne sait pas mieux que le Seigneur ce qui est bon pour toi. Va vers toi. Et le Saint-Esprit cheminera avec toi.